Au verset 1, il nous est dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager. » Voilà, je fais des bêtises, moi. Ouh là là. Oui. Il s'est passé quoi, là? Tu peux revenir au début, s'il te plaît? Tu peux me remettre au début? Je vais lâcher ça. Donc, je disais, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, dans l'autre sens. Merci, il est en train de tout dévoiler, mais c'est pas grave. Voilà, merci, mais c'est de ma faute. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc Jean parut baptisant dans le désert et il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, il disait, « Il vient après moi celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le serviteur arrive, voici son message. Vous le comprendrez facilement. Ce matin, nous allons parler dans un premier temps du serviteur, qui il est, et nous parlerons ensuite du message qu'il a. Oui. Voilà. Le divin serviteur. Une filiation divine. Au commencement de son évangile, Marc affirme que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment peut-il présenter une telle affirmation? Marc, en fait, n'était pas un disciple direct de Jésus-Christ. Son père spirituel était Pierre. Marc, au travers de son évangile, s'adresse aux chrétiens de Rome. Et sa volonté est d'expliquer à ses lecteurs, donc à des non-juifs, l'œuvre de Jésus-Christ qu'il va présenter comme le serviteur souffrant. Il faut savoir qu'à cette époque, les chrétiens de Rome devaient faire face à une persécution sans précédent de la part de Néron. Vous connaissez probablement l'histoire, hein, on les traînait dans les cirques, on les jetait en pâture aux lions. Alors, ces chrétiens qui souffraient, on leur présente un serviteur souffrant, ça fait écho chez eux. L'évangile de Marc va s'attacher à démontrer que Jésus est la filiation divine, plus au travers de ses actes que de ses discours. Nous avons dit que Marc était le fils spirituel de Pierre. Pierre, lui, était un disciple direct de Jésus-Christ. Et il va raconter à Marc, en fait, ce qu'il a vécu. Et Marc, lui, va nous relater donc la vie de Jésus-Christ au travers des expériences que Pierre a vécues. Ce Pierre qui a pu prononcer une telle affirmation face à une question de Jésus qui se trouve en Marc, chapitre 8, les versets 27 et 29. Donc, il va peut-être falloir que je le mette. Oui. Tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà. Marc chapitre... On va faire comme ça, hein, je vais déposer ce truc. Marc chapitre 8, les versets 27 et 29. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » Et il s'adresse à ses disciples et leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répond, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Messie, celui qui devait venir. On voyait que Marc, effectivement, il nous explique que Jésus est le Christ parce que Pierre l'a vu agir. Et il en a déduit donc que la personne qui était en face de lui était le Christ. Tu peux avancer encore? Nous avons vu donc que Marc voulait démontrer la divinité de Christ au travers de ses actes. Mais il souligne également que le serviteur qui arrive est le Fils de Dieu parce qu'il est l'accomplissement d'une promesse faite à Dieu, à son peuple. Et pour cela, il cite le prophète Ésaïe. Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Le serviteur qui arrive, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va arriver, en fait, au travers de son serviteur. Le verset 3 affirme que la personne qui arrive, effectivement, est Dieu lui-même. Ainsi, Marc proclame que Dieu, à travers ses actes, à travers la Bible, est le serviteur, Dieu lui-même, le Messie promis. L'évangile de Marc a probablement été écrit en l'an 60. Il est donc probablement l'un ou le premier des quatre évangiles. C'est intéressant parce que, en fait, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La promesse du Messie, qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, eh bien, ça va arriver, c'est maintenant. Je veux dire, c'est intéressant d'être à ce moment-là de l'histoire. On est entre la promesse promise et la promesse qui se réalise. Les promesses de la venue du Christ vont donc se réaliser. Nous y sommes. Et comme tout événement important, ici la venue d'un grand et éminent personnage, eh ben ça se prépare. Ça se prépare un événement comme ça. Alors, je me suis mis à un truc 30 ans, là. Nous allons célébrer nos 30 ans, c'est vrai, mais il faut préparer cette célébration. Il n'y a pas beaucoup de personnes inscrites sur la liste, là-bas. Un événement, ça se prépare. Donc, j'espère que je ne vais pas être obligé de vous courir après pour vous inscrire d'office. Un événement, ça se prépare. Et donc, pour préparer l'avènement de ce Messie, eh bien, on a envoyé un messager. Et il nous est dit que c'est une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et on nous parle de Jean au verset 4. Que signifie « préparer le chemin » ? Tu peux ? Merci. Préparer le chemin ici, c'est rendre audible le message de la personne qui va arriver. Nous avons vu que nous avons présenté qui arrive. C'est Dieu lui-même au travers de son fils qui arrive. Et il a un message. Il a quelque chose à faire passer. J'ai une question à vous poser ce matin. Imaginez que vous ayez à promouvoir votre futur parc de loisirs. Tu peux mettre le parc de loisirs ? Ah, il est beau, le parc de loisirs. Comment allez-vous communiquer sur cette nouvel événement, en fait, qui va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment allez-vous communiquer ? Comment allez-vous rendre, entre guillemets, audible le fait que le parc de loisirs va ouvrir et il faut que des gens viennent ? C'est une question. Donc ça veut dire que ça amène une réponse. Pardon ? Médiatiser. On va faire de la publicité. Ah ben oui, ça c'est... aujourd'hui, on va... Internet, formidable. La radio, la télé, On va imprimer des tracts, ouais. On va faire des affiches, on va mettre en place une équipe qui va aller à la gare, on va faire des trucs. Et j'aimerais une autre question, où est-ce que vous implanteriez-vous ce parc de loisirs ? Où est-ce que vous le mettriez ? Pardon ? Là où il n'y en a pas d'autre, c'est-à-dire ? Dans un champ. D'accord. Là où il y a du monde. Ça paraît plus logique quand même. Hein ? Il y a de l'espace. Ah, d'accord. Ok. J'ai pas compris. L'accessibilité. Ah ouais, oui, bah oui, ça compte parce qu'il faut que les gens puissent y aller. Ok. On va continuer. Comment rendre un message audible ? La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il faut l'isoler des autres. ou le mettre au-dessus des autres. Alors, il faut qu'on puisse vous entendre. La stratégie divine qui a été mise en place, et tu n'es pas loin, qu'est-ce qui fait le message, on va le mettre dans un désert. Ici, la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, effectivement, tu as raison, il y a de la place dans un désert. Et il paraît que des sons émis dans un désert peuvent s'entendre à 10 km plus loin. Super. On a la place pour accueillir les gens. Ouais. Mais bon, il faut qu'il y ait des gens. Parce que crier dans un désert, ça ne sert pas à grand-chose. Isoler le message signifie aussi le rendre audible. Quand il y a moins de bruit, on entend plus facilement, beaucoup plus facilement. Le rôle du messager, c'était justement de rendre audible cette parole, et il a choisi d'aller dans un désert. Tout à l'heure, on a parlé de l'emplacement de notre parc de loisirs. Notre sœur, là, a dit, on va le mettre dans un endroit à reculer où il n'y a pas grand-chose. Et elle a raison. Elle a raison parce que, est-ce que vous connaissez Las Vegas? Vous connaissez Las Vegas? Tout le monde connaît Las Vegas. C'est super connu, Las Vegas. Las Vegas, chaque année, attire plus de 40 millions de personnes. Son activité génère près de 60 milliards de dollars par an. Le prix au mètre carré dans la région de Las Vegas, vous savez, c'est combien? 2 746 $. Je parle, c'est du non bâti, hein. C'est sûr, ça, un mètre carré, ça fait 2 746 $. Et vous savez une chose, Las Vegas est située au milieu du désert, dans le plus sec des quatre grands déserts nord-américains. C'est là qu'on a construit Las Vegas. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui se déplacent jusque là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ce qu'on propose à Las Vegas, ça attire les gens. Il y a des spectacles. Il paraît que Céline Dion a chanté, je ne sais pas pendant combien de... Il y a des grandes personnes, une personnalité là-bas. Vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser. Ça attire. Rendre le message audible, c'est d'expliquer quels sont les apports du message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça pourra apporter au monde? La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que rendre le message audible dépend aussi de la qualité du messager. Une autre manière de rendre le message audible est que le messager soit lui-même attractif. Le messager, on a dit que c'était Jean. Jean était capable d'attirer des foules dans un endroit retiré. Incroyable. Et Jean devait probablement ressembler à... Encore? Voilà. À mon avis, on ne doit pas être bien loin. Jean était bien éloigné du Golden Boy riche qu'on connaît aujourd'hui. Il était bien éloigné des personnages branchés qu'on connaît aujourd'hui. Quand j'ai appris ça, c'est Rihanna, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Moi, excusez-moi, il n'y a pas longtemps, je ne savais pas qui c'est. Donc, il paraît que cette personne a 60 millions de suiveurs sur Facebook. C'est-à-dire 60 millions de personnes qui la regardent se brosser les dents, je sais pas, choisir une nouvelle paire de chaussures. Mais ils n'ont pas de vie, ces gens-là, je ne sais pas. Voilà, c'est une jolie personne, probablement. Mark Zuckerberg, qu'on a vu, lui, c'est quelqu'un d'intéressant, d'intelligent. Mais Jean, quand même. Tu peux remettre sa photo, s'il te plaît, juste. Encore, ouais. Voilà. Vous voyez quelqu'un comme ça arriver en face de vous. Je ne sais pas. Alors, on nous dit qu'il était dans le désert, il devait se laver dans l'eau, je ne sais pas, du Jourdain, il devait manger des baies, il ne devait pas sentir très bon, je suppose, il ne devait pas être très propre, enfin, je ne sais pas. J'espère pour ses interlocuteurs qu'il était. Mais bon, tu peux repartir en avant, merci. La question qu'on va se poser, mais c'est comment est-ce qu'il faisait pour être une telle source d'attraction? Pourquoi est-ce que les gens venaient le voir? Ah. Il y avait l'Esprit de Dieu, amen. Tu peux continuer, s'il te plaît, merci. Ce messager avait été envoyé pour aplanir le chemin, donc préparer le chemin et aplanir les sentiers. Aplanir les sentiers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du terrassement. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est pas jouer avec la pelle, la pioche, retirer tout ce qui est. Je sais pas, nous avons fait à la terrasse autour de notre maison, là. La bétonneuse, elle est arrivée à 20h. Le gars, il a tout balancé par terre et puis il a fallu tout tirer tout autour de la maison. On a fini, il était minuit, je crois. C'est difficile. Aplanir les sentiers de Dieu. C'est-à-dire présenter l'Évangile. Présenter l'Évangile avec humilité. Toutes les personnes qu'on a vues là mettent en avant leur personnalité, mettent en avant leur réussite, mettent en avant qui elles sont. Et c'est pour ça qu'on les suit. Jean, lui, c'est pas lui qu'il met en avant. Il met en avant celui qui va arriver derrière. Le rôle de Jean était de présenter l'Évangile avec humilité. Il dit lui-même, le serviteur qui va arriver, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de lacer ses chaussures. Aujourd'hui, le culte de la personnalité est quelque chose de... Lui, il dit, celui qui vient, il est plus grand que moi. Ça signifie qu'il a renoncé à son statut social, qu'il a renoncé au privilège qu'il pouvait avoir pour se mettre au service du messager et de son message. S'il te plaît, voilà. Pour les plus anciens, ils peuvent aisément compléter ce slogan. J'espère que je ne suis pas le plus ancien ici, quand même. Pâté Marconi. Si on vous dit pâté Marconi, vous répondez quoi? Pardon? Merci, c'est gentil. Je me disais, je vois qu'on est aussi vieux l'un que l'autre, ça fait plaisir, tu peux? Ah ouais, pâté Marconi, la voix de son maître. Vous connaissez pâté, vous savez, le cinéma. Il faisait à l'époque aussi tout ce qui était chaîne-fi, télévision, tout ça. Quand on vous disait pâté Marconi, la voix de son maître, on vous disait que vous achetiez un appareil de qualité. Fidèle, qui va rendre le son que vous allez... Le son qui a été mis, ça va être parfait. Pâté Marconi. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Je suis une... baffe. Qu'est-ce qu'il dit? Mon rôle, c'est pas de me mettre en avant, mais c'est d'expliquer, de présenter qui arrive derrière. Je suis une voix. Une voix. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que présenter l'Évangile, c'est la présenter sans l'altérer. Le message de l'Évangile n'a jamais été audible, même à l'époque de Jésus-Christ. Il est toujours en opposition avec la pensée dominante du moment. Toujours. Le rôle d'un messager, le rôle de Jean, c'était de présenter l'Évangile. Tout l'Évangile, rien que l'Évangile. Ne pas dire, oula, ça c'est polémique, donc on ne va pas en parler, parce que là, franchement, je sens qu'on... Hein. Parce que vous le savez. Quand vous discutez avec les gens, vous savez la pensée dominante, et vous savez que si vous dites quelque chose qui va à l'inverse, ça va vous causer des soucis. Ça va vous causer des soucis, c'est sûr. Alors, la facilité voudrait dire, voilà, ça va poser des soucis, donc j'en parle pas. Ce n'est pas ce qu'a choisi Jean. Et si vous connaissez sa vie, vous savez comment elle a fini. Hein? Marie-Antoinette avant l'heure. Il a perdu la tête, mais au sens premier du terme, on lui a coupé la tête. Parce que ses positions et ce qu'il disait, ça ne plaisait pas toujours. Nous avons parlé que quand on aplanit le chemin, ben, ça peut nous emmener dans des endroits difficiles, des endroits compliqués. Mais ça n'a pas empêché Jean de présenter et de proclamer le message de l'Évangile. C'est ici la voix de celui qui crie. Jean était un canal pour présenter le message. Nous avons beaucoup parlé du serviteur, du message. Maintenant, nous allons parler du message en lui-même. Qu'est-ce que c'est le message qui arrive ? Parce que, hein, le message, il est important, on l'annonce. De quoi parle-t-on ? Au verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tu peux mettre, s'il te plaît ? Encore ? D'accord. Le message divin. D'accord. Première chose, qu'est-ce qu'il dit, Jean ? Il prêche le baptême de repentance. Nous allons d'abord expliquer ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est que vous vous plongez entièrement dans quelque chose. D'accord ? Vous faites un truc, mais complètement. Le baptême de l'air, vous faites un... Voilà. Vous êtes entièrement englobé. Ici, le baptême de repentance signifie que vous reconnaissez entièrement que vous êtes pécheur. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Quand vous parlez avec la plupart des gens aujourd'hui, bon, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, mais à la rigueur, meilleur. J'ai tué personne, j'ai pas volé, je bats pas ma femme. Donc, je suis quelqu'un de bien, en fait. Les péchés, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. On dit souvent que le verset qui résume la Bible se trouve en Jean 3,16, que vous connaissez probablement. Qu'est-ce que ça dit, Jean 3,16 ? Excusez-moi. Je suis vieux, j'entends pas beaucoup. D'accord. Vous connaissez. D'accord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Formidable, ça, cette promesse. Tu peux ? Voilà. Le sacrifice de Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, nous permet d'avoir la vie éternelle. Formidable. Ce verset résume la Bible. J'aimerais vous poser une question. D'après ce verset, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne croient pas ? Pardon ? Eh ouais. Eh ouais. Ils n'ont pas la vie éternelle. Donc Jean va nous expliquer comment obtenir la vie éternelle, en fait. Et la première chose qu'il dit... Il faut vous repentir. Il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Il faut arrêter de vous trouver des excuses. Il faut reconnaître que vous avez besoin de Dieu et que le niveau d'exigence de Dieu, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Et vous devez vous repentir, le reconnaître, pas en catimini dans un coin, publiquement, devant tout le monde. Et ce que j'ai bien aimé, c'est lors du dernier baptême, c'est ce qu'on a entendu. Voilà, j'ai fait des trucs pas terribles. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai compris. Ce que j'ai fait, c'était pas bien. Et je veux maintenant changer. Donc, Jean nous explique que le premier pas de la foi, c'est une reconnaissance publique de son péché. Une reconnaissance pleine et entière de notre état de pécheur. Le second pas, il explique, c'est le baptême d'eau. Qu'est-ce que c'est le baptême d'eau ? Le baptême d'eau, va démontrer en fait le processus qui s'est passé en nous. Donc, je reconnais que je suis pécheur et je me baptise. Et vous savez, cette image, on vous plonge dans l'eau et on vous retire de l'eau, montre votre mort à votre vie passée. et que maintenant vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Donc ça veut dire que je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais avant, normalement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mort à mon ancienne vie, résurrection en étant quelqu'un de nouveau. Vous connaissez probablement cette publicité, n'est-ce pas ? Venez comme vous êtes. C'est formidable. C'est chouette. Je veux dire qu'on accepte tout le monde. Et c'est vrai que au niveau spirituel, on accepte tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, pas qu'il soit blond avec aux yeux bleus, qu'il soit riche, n'importe qui, peut venir. Ce méchant, c'est formidable. Mais il signifie aussi que vous venez comme vous êtes et puis que vous continuez à rester comme vous êtes, en fait. C'est ça. Ce que signifie ce message. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. Tu viens comme tu es, mais tu es mort, ressuscité en étant quelqu'un de nouveau. C'est ce qu'il prône. Le message, c'est qu'il faut se repentir et changer de vie quand on a compris réellement ce que Dieu voulait pour nous. Baptême de repentance, baptême d'eau. Ces deux baptêmes de repentance ont une conséquence, et il nous le dit, le pardon des péchés. C'est-à-dire la réconciliation. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a-t-il été obligé de venir sur la terre ? Parce que le premier homme a fait quelque chose de pas bien. Il a péché. Et pendant tout l'Ancien Testament, on fait des sacrifices, on fait plein de choses parce que nous avons été séparés avec Dieu. Cette communion qu'il y avait dans le jardin d'Éden, hein, Dieu y parlait, belle communion, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Et depuis, au travers de tout ce qu'on a pu faire, on essayait de réconcilier, de se rabibocher. Mais ce n'était pas ça. C'est pas... Le sacrifice de Jésus-Christ va nous permettre d'avoir une réconciliation avec Dieu. La réalisation de ces deux baptêmes aboutit au pardon de nos péchés. Ce pardon qui signifie que nous avons restauré notre relation avec Dieu. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Le fait d'être pardonné nous réconcilie donc avec lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous invite tout homme à être réconcilié avec Dieu. Et il dit tout ce qui arrive, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, à genoux, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes venu ce matin et que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, que vous n'avez pas reconnu votre péché, que vous n'avez pas démontré publiquement votre volonté de ne plus être comme avant, nous vous en supplions ce matin, à genoux. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Le pardon des péchés provient du fait que nous avons compris que nous devions être baptisés de repentance et d'eau. Et ce baptême à son tour, ce pardon des péchés, pardon à son tour, va impliquer le baptême du Saint-Esprit. On va expliquer rapidement ce qu'on peut voir au travers de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est, je l'ai lu. Encore. Voilà, encore. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, tu peux remettre les diapositives souvent, voilà, c'est que le baptême était un don sélectif et temporaire. Ça, on peut le voir au travers. C'est-à-dire que quelques personnes étaient choisies pour avoir le Saint-Esprit et ça pouvait leur être enlevé. On peut voir, Juges chapitre 14, verset 6, « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et sa mère ce qu'il avait fait. » Bon. Force surhumaine. Deuxième chose. Samuel. L'Esprit de Dieu saisit Samuel et il prophétisa au milieu du peuple. Et dans le psaume 51,13, on nous dit « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le baptême de l'Esprit signifie que nous allons être complètement immergés dans la personne même de Christ au travers de son esprit. Alors bien évidemment, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de se repentir. Et puis, de passer par le baptême et de changer de vie. Ici, ce que Jean dit, c'est que nous allons atteindre la plénitude de l'Esprit, cet Esprit qui n'était pas encore arrivé quand il écrit ce passage. Ce qu'il explique, c'est que le Saint-Esprit sera toujours avec nous, qui sera toujours là pour pouvoir nous aider et nous permettre d'avancer dans notre vie chrétienne. Une présence permanente, pas sélective, pas temporaire, complètement imprégnée de la personne et faisant part à la personne même de Christ. Nous arrivons à la conclusion. Ce passage a été écrit bien longtemps à des chrétiens qui étaient à Rome, dans un contexte de persécution. Et bien que nous ne soyons pas directement impliqués, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, par la persécution, il a de grands enseignements pour nous, comme nous l'avons vu. Premièrement, ce passage nous invite à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui en qui nous avons cru, est réellement Dieu, le Père. Ensuite, il nous encourage à rester attachés à sa personne et à son message, à affirmer ce message avec force, en dépit de tout ce que nous pourrons entendre aujourd'hui, à ne pas le transformer, à ne pas l'édulcorer, à le présenter avec amour, mais à présenter l'Évangile, rien que l'Évangile, et tout l'Évangile. La première venue de Christ était porteuse de bonnes nouvelles pour le monde. Formidable. Une bonne nouvelle, un message de réconciliation. Sa seconde venue, en revanche, risque d'être une très mauvaise nouvelle pour beaucoup. Car quand il va revenir, ce ne sera pas pour réconcilier, mais pour juger. Notre travail, donc, est primordial pour que le maximum de personnes puissent être réconciliées avec Dieu. C'est un véritable défi pour nous. Rendre audible ce message afin d'atteindre le plus grand nombre. Ce passage nous a présenté quelques stratégies à mettre en place. Eh bien, sachons les mettre à profit. Que Dieu vous bénisse.